Mesdames et messieurs les députés.
L'Union européenne est d'abord un espace où les peuples ont décidé de vivre en paix.
Autour de la table, les dirigeants des 27 réunis aujourd'hui en sommet. Plusieurs dossiers sont sur la table au moment où je vous parle.
Nous avons collectivement à nous donner les moyens de faire de notre Europe une puissance d'équilibre.
Tout ce qu'il a dit, il l'avait déjà dit par le passé. Il n'y a rien de fondamentalement, je dirais, nouveau.
Et ma jeunesse fut celle de l'évidence européenne.
Cette prison qui est devenue l'Union européenne.
Et je compte sur le travail étroit, harmonieux, avec le Parlement européen.
Plus j'y parle, moins il en dit. J'y parle, moins il en dit.
Bienvenue dans ce moment d'Europe sur Radio Divergence, une émission proposée par le mouvement européen Héros. Alors la guerre est aux portes de l'Union européenne. L'invasion de l'Ukraine par la Russie bouleverse totalement les paramètres habituels de la sécurité et de la défense en Europe. Nous en parlerons avec notre invité, le professeur Jacques Aben. Mais auparavant, nous ferons un tour de l'actualité européenne avec Clément Nicolas de la Maison de l'Europe de Montpellier, Europe Direct. Bonjour Clément. Alors, nous allons commencer ce tour d'horizon par quoi ? Par l'Ukraine,
alors,
j'imagine ?
Bien évidemment, parce que l'invasion de l'Ukraine par les troupes russes, c'est une guerre qui dure depuis maintenant quasiment un mois et qui va donc forcément demander une prise en charge sur le long terme. De l'accueil des réfugiés aux nouvelles actions possibles pour les Occidentaux, nous verrons quelles sont les options encore sur la table alors que le conflit semble s'enliser. Dans le reste de l'actualité, le pacte vert de l'Union européenne, ce qui est censé en fait mener notre continent à la neutralité carbone d'ici 2050. Ce pacte vert donc a connu de nouvelles grandes avancées, d'autant plus symboliques qu'elles montrent que l'environnement est désormais au cœur de toutes les actions de l'Union, nous le verrons. Et enfin, on terminera par un focus sur deux élections d'importance prévues pour le mois prochain. On parlera bien sûr des enjeux européens de la présidentielle en France, mais également de ce que l'on peut attendre des élections législatives en Hongrie.
Et donc pour commencer, chaque jour sa nouvelle bataille stratégique, chaque jour son flot d'images, de vidéos, qui montrent que le pire est en train de se produire aux portes de l'Union européenne, avec la montée inexorable d'une seule et même question. Que peut-on faire de plus ? Sommes-nous voués à rester impuissants face à ce spectacle désolant ?
En effet, le mois dernier, j'expliquais ici même que tout le monde saluait une réponse rapide, unie et forte de l'Europe dès les premiers jours où Vladimir Poutine avait lancé son, je cite, « opération militaire spéciale » sur le sol ukrainien. Mais un mois après, force est de constater que le but principal du tsunami de sanctions décidé depuis le 24 février dernier n'a pas été atteint. Le régime de Poutine devait être acculé économiquement et diplomatiquement. À l'heure où je vous parle, sa principale défaite est finalement militaire d'une certaine façon et contre toute attente. L'héroïsme des Ukrainiens n'est plus à prouver. Leur résistance est une victoire, mais pour combien de temps ?
C'est justement cette urgence qu'a tenu, à rappeler Volodymyr Zelensky en personne, par visioconférence devant la plupart des parlements occidentaux.
Exactement, ce leader charismatique et médiatique, le président ukrainien veut faire peser toute sa nouvelle stature internationale en s'exprimant directement aux parlementaires européens de Strasbourg, tout comme à ceux du Canada, du Japon, de l'Allemagne, d'Israël, des États-Unis ou encore de la France. Alors que le conflit commence à durer, il exhorte chaque pays à faire plus militairement, en livrant bien des armes et des financements de manière bien plus massive, on en parlera avec notre invité, mais aussi faire plus dans les sanctions en arrêtant tous les paiements vers la Russie, y compris ceux pour l'achat d'hydrocarbures. Autant de sujets extrêmement sensibles, puisque tout signe perçu par Moscou comme étant un acte de guerre pourrait déclencher un conflit entre plusieurs puissances nucléaires.
Alors, dans ces conditions, comment aider l'Ukraine sans franchir une ligne rouge dont on ne sait même pas bien où elle passe d'ailleurs ?
C'est là tout le dilemme, et c'est un dilemme face auquel tous les pays finalement sont bloqués, puisque faire un pas supplémentaire est à haut risque. Se priver tout de suite des hydrocarbures russes pourrait avoir des conséquences économiques et sociales désastreuses. Être trop impliqué militairement pourrait déclencher la Troisième Guerre mondiale, pour reprendre les mots de Joe Biden. Au sommet de Versailles, les 27 ont donné mission à la Commission de trouver des solutions le plus rapidement possible, même s'il faut nuancer cette relative impuissance sur le terrain, notamment par l'action de chaque pays européen où la solidarité est forte pour accueillir les millions de réfugiés. En attendant, l'emballement médiatique, et l'emballement tout court d'ailleurs, des débuts laisse petit à petit place à une forme de retour aux habitudes, avec le risque qu'une fois le choc passé, le sujet serait relégué à la deuxième, voire au troisième plan des priorités de chaque pays. L'intense présence médiatique de Volodymyr Zelensky est dans ce domaine un moyen efficace de mobiliser les opinions publiques. Mais pour combien de temps encore ?
Alors, cette crise en Ukraine a remis au premier plan la dépendance énergétique de l'Europe et avec elle tout le modèle de transition écologique qui était prévu depuis de nombreux mois par la Commission au sein de son pacte vert. Je le rappelle, c'est un train de mesure dans tous les domaines pour atteindre les objectifs environnementaux de l'Union, réduire de 55% nos émissions d'ici 2030 pour finalement atteindre la neutralité carbone en 2050.
Et oui, des objectifs qui sont ambitieux et qui demandent donc des efforts à la hauteur des enjeux. Et ces dernières semaines ont donc été marquées par deux nouvelles étapes importantes. La première concerne le fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, celui dont vous parlez ici même le mois dernier avec notre invité. Le Conseil de l'UE a approuvé officiellement ce principe le 15 mars dernier, ce qui donne donc officiellement lieu aux négociations avec le Parlement européen. Je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là le mois dernier, l'idée est de taxer les importations en fonction de la pollution qu'elle émettra à l'étranger, histoire d'éviter que les industries les plus polluantes d'Europe ne s'expatrient pour fuir les nouvelles règles environnementales. Et l'Europe veut aller vite, après une entrée en application dès janvier prochain, normalement pour 5 matières test les plus polluantes. Le système devrait normalement se généraliser assez rapidement. Si cela vous intéresse, donc, vous pouvez retrouver le replay de l'émission du mois de février sur le site internet de Radio Divergence.
Et tu nous parlais d'une seconde avancée.
Oui, l'autre concerne, elle aussi, un des maillons les plus importants de la transition écologique, car pour sortir des énergies fossiles, tout est amené d'une certaine manière à s'électrifier. On pense par exemple aux voitures électriques. Or, pour cela, il faudra concilier deux priorités européennes. La souveraineté, en produisant des batteries électriques sur le sol européen, mais aussi l'environnement, en mettant en place des normes beaucoup plus exigeantes sur ce domaine. Faire de l'Europe le, je cite, « leader d'une production de batteries sûres, éthiques et durables », a insisté Barbara Pompili, la ministre française de la Transition écologique. Mais pour cela, il faudra assumer certains choix, comme par exemple rouvrir des mines en Europe pour produire lithium, cobalt, nickel et autres minerais rares essentiels à leur fabrication. Une décision difficile mais nécessaire, puisqu'en 2035, la vente de voitures thermiques neuves sera interdite dans l'Union européenne. En tout cas, que ce soit ce règlement batterie comme l'ajustement carbone, il faut souligner que tous les pays européens sont relativement d'accord sur une nécessité, taper vite et fort, car aujourd'hui se jouent les législations pour les prochaines décennies.
Et puis pour terminer, deux échéances électorales importantes sur le continent qui se profilent.
Exactement. La première donc sera la présidentielle française. Les 10 et 24 avril prochains, les Français auront à voter pour le prochain locataire de l'Élysée. Un vote national, mais qui aura évidemment des répercussions européennes, ne serait-ce que parce que la France tient actuellement la présidence du Conseil de l'Union jusqu'au 30 juin prochain. Quel que soit le résultat, le prochain gouvernement devra donc donner le tempo dans les négociations européennes, et ce pour les quelques mois qui lui restera. Mais au-delà de cette présidence tournante, le chef d'État français aura bien sûr un poids important dans l'équilibre européen. Dans tous les cas, et il ne faut pas s'y tromper, l'Europe se fait à 27. Et ce n'est pas parce qu'un candidat français promet une révolution qu'il pourra la faire seul.
Et l'autre scrutin se passera dans un pays qui s'est beaucoup fait remarquer ces derniers temps, la Hongrie.
Et oui, ce pays d'Europe centrale est un sujet sensible en Europe, puisque son leader d'extrême droite, le populiste Viktor Orban, s'est mis depuis plusieurs années dans une opposition assez frontale avec la Commission européenne au nom de valeurs qu'il définit lui-même comme étant, je cite, « illibérales ». Autrement dit, à partir du moment où la population vote, qu'importe la séparation des pouvoirs ou l'indépendance des médias par exemple. Bien plus proche de la Russie, il est donné malgré tout favori. En tout cas, l'opposition s'est donné les moyens de le mettre en danger. Elle s'est réunie derrière un candidat unique, Peter Markizay, un conservateur mais pro-Union européenne, pro-mariage gay et pro-liberté des médias. Bref, autant dire que les résultats de cette élection aura forcément une portée européenne avec l'opposition de deux modèles quasiment, un symbole fort d'un recul des populismes ou au contraire la confirmation d'une tendance de fond. Que ce soit la présidentielle en France ou les législatives en Hongrie, l'Europe entière pourra en tirer des conclusions dans ce moment politique que nous vivons, à la croisée du Covid, de la guerre et de l'urgence climatique. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez suivre l'actualité européenne au jour le jour sur le compte Instagram de la Maison de l'Europe de Montpellier.
Merci Clément. Aujourd'hui, donc, nous recevons le professeur Jacques Aben. Bonjour.
Bonjour à vous.
Professeur émérite de sciences économiques à l'Université de Montpellier, spécialisé dans les questions de défense. Alors, l'Union européenne est en plein bouleversement face à cette crise ukrainienne, notamment dans le domaine de la défense. On nous a annoncé il y a quelques semaines que la Commission européenne allait financer la livraison d'armes à l'Ukraine en réaction à l'invasion russe. C'est une première, ça ne s'était jamais vu. Hier, les ministres des Affaires étrangères de l'Union ont adopté ce qu'on appelle la boussole stratégique. C'est un plan d'action sur plusieurs années qui concerne la sécurité et la défense. Pour rapidement rappeler ce qui a été acté hier, le déploiement d'une force militaire de 5000 hommes et de 5000 femmes aussi. Également des livraisons d'armes, une production industrielle en commun et également étendre la protection militaire sur les États neutres de l'Union européenne. Ils sont une poignée. Donc, on assiste vraiment, Jacques Aben, à un bouleversement total des mentalités, des paradigmes habituels, non ?
Justement, non. Ça n'est pas ma perception de la chose. Je ne crois pas qu'il y ait un bouleversement. Il y a effectivement, tout à l'heure, vous avez parlé d'emballement. Oui, emballement médiatique, emballement des comportements. Mais rappelez-vous, quand on a dit il faut absolument que l'Ukraine adhère immédiatement à l'Union européenne, qu'est-ce qui a été répondu ? Mais attendez, ça ne marche pas comme ça. Nous sommes dans un état de droit. Il y a un droit européen qui est très riche d'ailleurs. Et donc, on ne peut pas bousculer les principes, d'abord, bousculer le droit, même pour répondre à une situation d'urgence. Donc, l'Ukraine n'entrera pas demain dans l'Union, malgré tout. Et donc, il n'y a pas de bouleversement. Il y a un fonctionnement normal des institutions européennes. Et c'est parce qu'il y a néanmoins des outils concernant la défense et la sécurité qui ont été forgés depuis fort longtemps. Et alors, plus étroitement depuis le traité de Lisbonne, donc depuis 2009, je dirais de 2009 à aujourd'hui, alors peut-être une petite accélération ces derniers temps, mais je pense par exemple à l'année 2016 qui a été où il s'est passé quelque chose sans arrêt. Tous les mois, l'Union produisait des progrès de sa construction de la défense. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, me semble-t-il, c'est activer des outils, mettre en œuvre des outils qui existent, alors éventuellement depuis hier, c'est-à-dire depuis 2021, mais aussi depuis 2016, enfin, et même avant. Donc, pour moi, il n'y a pas de révolution, il y a une mise en état d'action d'une institution qui, jusqu'ici, n'avait pas eu à le faire.
Il n'y a pas de révolution, néanmoins. Est-ce que les mentalités ne changent pas dans les pays d'Europe ? Quand on voit, par exemple, le Danemark qui va faire un référendum pour pouvoir participer à tout un système de défense et de sécurité. Quand on voit la Suède ou la Finlande qui se demandent si être neutre... C'est une bonne option encore. Quand on voit l'Allemagne, hein, qui se rend compte que son armée est totalement démunie et qu'il faut réagir. Est-ce qu'il n'y a quand même pas un bouleversement dans les mentalités ?
Alors effectivement, la peur est bonne conseillère. Si vous voulez, ça nous renvoie un peu à une question plus large, qui est celle des relations, enfin plus large, distincte, qui est celle des relations entre l'Union européenne et l'OTAN, enfin, ou le pacte atlantique. Jusqu'ici, beaucoup de pays de l'Union européenne avaient tendance à se comporter comme des parasites sur le plan de la défense, des exploiteurs du grand. Ça, c'est une théorie économique qui date de 1966, je crois, qui est exploitation dans une alliance militaire, l'exploitation des grands par les petits. Pourquoi ? Parce que le grand, il a aussi en principe une politique impérialiste. Il doit se doter, quoi quoi qu'il en coûte, aussi quoi qu'il en coûte, mais indépendamment des autres, indépendamment de sa place dans l'Alliance, il doit avoir une puissance militaire importante pour faire sa politique. Les autres s'agrègent à lui dans le cadre de l'Alliance. Mais les autres ne pèsent rien. Donc, qu'ils augmentent ou qu'ils n'augmentent pas leurs dépenses militaires, ça ne va rien changer ou quasi rien changer.
Pourtant, c'est donc, ce que réclamait Donald Trump.
Mais attendez. Mais ça remonte au tout début. Dès les années 50, je vais vous dire, concrètement, l'OTAN a créé des outils pour mesurer les dépenses militaires. Pourquoi faire ? Simplement pour comparer les dépenses des uns et des autres, hein, en disant « mais vous ne dépensez pas assez, moi je dépense plus que vous, en pourcentage du produit intérieur brut ». Vous savez ce que c'est la situation aujourd'hui ? Vous devez savoir que depuis 2004, l'OTAN a fixé comme objectif que chaque membre dépense 2% de son PIB en matière de défense, dont au moins 20% pour l'équipement. Eh bien, il y a 8 États au sein de l'Union européenne qui dépensent au moins 2%.
Ils sont souvent à l'Est.
Et ceux qui dépensent le plus sont à l'Est. Il y a la Grèce aussi. Enfin, on peut dire que la Grèce est un peu à l'Est, mais oui. Et la moyenne est à 1,6%. La moyenne. Alors, sachant que le Luxembourg ne fait pas beaucoup varier la moyenne. Bon. Ça faisait en 2020, si je me souviens bien, 232 milliards de dollars dépensés par l'Union européenne contre 700 milliards de dollars pour les États-Unis qui sont à 3,7%. Oui. Donc, effectivement, il y a la tentation de ne rien faire. Et comme il n'y a pas de sanctions, Trump a eu beau parler. S'il sanctionne, il y a le risque que des États quittent l'OTAN ou menacent de quitter l'OTAN. Ça fait désordre. Face à une mort cérébrale, comme disait notre président de la République, ça fait désordre. Donc, on continue comme ça, sauf... Alors, je disais tout à l'heure, la peur est bonne conseillère. Sauf que là, les Finlandais, ils savent ce que c'est. L'Union soviétique, et ils ont eu une guerre avec eux. Bon. Donc, les autres, c'est pareil. Si vous regardez effectivement les États baltes, ils ont vraiment peur.
Oui, ils sont très proches, de toute façon.
Et le Danemark, qui est pas loin de la mer Baltique, où les sous-marins soviétiques, russes, se promènent à loisir... ils sont proches aussi. Donc, il y a un changement dans les postures individuelles. On se tourne plus vers l'OTAN. Ça n'est pas pour autant que ça révolutionne, pour reprendre l'expression, que ça révolutionne l'Union européenne.
En tout cas, ce qui est acté et inscrit dans justement ce texte signé et validé par les ministres hier, c'était qu'effectivement, il n'y avait pas de défense européenne sans OTAN. Ça, c'est clair et net.
Oui.
Vous partagez ce qu'on peut faire dans notre coin sans les Américains ?
Oui, non. Alors ça, je ne crois pas qu'aujourd'hui on le puisse. Sauf dans le dernier... Alors, je parle de la France. Dans le dernier recours, la France dispose d'une capacité de dissuasion nucléaire. Donc, si elle était acculée, je pense que ce processus de dissuasion, de persuasion de ne pas faire, je pense que on le ferait. Bon. Donc là, dans cette situation particulière, la France serait seule. Éventuellement un dialogue avec la Grande-Bretagne, puisque ça fait déjà longtemps que la coopération nucléaire fonctionne. Mais pour le reste, l'OTAN, aujourd'hui, est quand même l'instrument militaire le plus développé, le plus à jour, le plus entraîné pour faire face à une menace massive, à la menace de la haute intensité. Regardez ce qui se passe pour les achats d'avions de combat. Nous énorgueillissons d'avoir réussi à vendre beaucoup de Rafales. C'est un résultat indiscutable. Mais aujourd'hui, là, qui vend des avions ? Les États-Unis avec leur F-35.
Récemment, pourquoi ? D'ailleurs, aux Allemands...
Les Allemands en ont acheté, les Suisses en ont acheté. Enfin, tout le monde en achète. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut surtout pas faire de peine aux Américains. Parce qu'en dernier ressort, quelle est la dissuasion qui fera peur aux Russes ? Peut-être pas celle des Français. Peut-être pas, à voir. Mais en tout cas, sûrement celle des États-Unis. Donc, et puis, il y a le volume, si vous voulez. Des questions qu'on se pose aujourd'hui en France, c'est que pourraient faire les armées françaises dans un combat de haute intensité et pendant surtout combien de temps ? Avons-nous des réserves de munitions ?
On parle de ça se compte en jours, en semaines, voire en jours, dit-on.
Oui. Ceci étant, si l'Ukraine est capable de tenir un mois, je pense que nous pourrions tenir au moins un mois et faire beaucoup de mal en face.
Pour revenir à cette boussole stratégique dont je parlais au début, il a été question, c'était une idée, une vieille idée, je ne sais pas si elle a été concrétisée, de réunir les états-majors, ou du moins que les différents états-majors puissent coopérer par des stages, par des rencontres. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce que ça a eu lieu vraiment ? Est-ce que concrètement on y est ? L'idée étant d'avoir une culture stratégique commune. Quoi.
Mais oui, bien sûr que ça existe. Alors, ça existe déjà. Écoutez, je vais vous parler d'une expérience personnelle. J'ai fait deux exercices, un en Allemagne, l'autre en Norvège, d'exercices de force aérienne. C'était avec les Américains. S'agissant en Allemagne, c'était face aux Américains. Et en Norvège, toujours dans des centres dédiés à l'exercice, c'était avec plusieurs États. Donc, effectivement, l'exercice consiste à mettre deux États-majors, puisque ce ne sont pas des exercices réels, ce sont des exercices d'État-major. Kriegsspiel, on disait avant. Et donc, on apprend à travailler ensemble. Et ça se fait régulièrement pour l'armée de terre, pour l'armée de l'air, pour la marine. Donc, il n'y a rien de neuf sous le soleil, si ce n'est la mise en place possible d'une sorte de continuum d'exercice. Toujours avec les mêmes, toujours face à des situations réalistes. Regardez, excusez-moi, je vais d'une idée à l'autre, mais actuellement... le transport stratégique entre l'ouest de l'Europe et la Roumanie, par exemple, se fait avec des avions franco-allemands. Donc ces pilotes-là, ils ont bien appris à travailler ensemble. Alors certes, ils parlent en anglais entre eux la plupart du temps, mais peu importe, c'est pas ça la question. Mais ils savent travailler ensemble. Il y a des exercices aériens, il y en a. Mais alors en réel, ceux-là, il y en a sans arrêt. Donc l'idée de travailler ensemble entre états-majors n'est pas une idée. Simplement, c'est écrit dans les textes.
Ce qui fait la différence.
C'est l'Europe avec son droit. Alors, ça paraît lourd, mais c'est solide après.
Et est-ce que tout le monde va dans le même sens ? Est-ce qu'il n'y a pas des divergences stratégiques ?
Non, à mon niveau de connaissance, c'est pas... Non, là, on ne parle plus de stratégie, on parle de tactique, on parle de niveau opératif. C'est faire ensemble. Lorsqu'un état-major est en exercice, il exécute, il est en opération. On n'est plus dans le niveau stratégique. Le niveau stratégique, c'est le niveau des États. Et là, on a un état-major de l'Union européenne, alors qu'il ne fonctionne peut-être pas le mieux possible, mais qui existe. Après... J'ai tendance à penser que face à l'épreuve, la graisse disparaît, reste le muscle.
Est-ce que du coup, ce sera ma dernière question, parce qu'on arrive au terme de l'émission, est-ce que du coup, le fait que la Grande-Bretagne soit ait quitté l'Union européenne place la France dans une responsabilité particulière par rapport à ce sujet de la défense, de la sécurité
au sein de l'Union européenne
Et peut-elle peser, vraiment ?
Non, écoutez, Mais je vais vous raconter une anecdote. Alors, c'est une anecdote. J'ai eu une étudiante chinoise qui avait été missionnée par son université chinoise pour faire une thèse en France sur l'apport de la France dans la construction de la défense européenne. Donc, ça montre que c'est réel, si vous voulez. Oui, la France a toujours été une nation en avance, initiante, si je peux dire, au sein de l'Union européenne, parce que c'est l'héritage gaulliste. C'est plus il y aura de l'Europe, moins il y aura de dépendance à l'égard des États-Unis.
Mais ce n'est pas forcément suivi, vous le disiez, par les pays.
Pour les raisons
pays.
Que je disais tout à l'heure.
D'accord.
On n'a pas... moi, je me rappelle avoir entendu un Belge dire « Écoutez, les États-Unis sont loin, la France est proche. Donc, je préfère être sous la tutelle des États-Unis. »
Très bien. Merci beaucoup, Jacques Aben, pour ces explications.
Avec plaisir.
Merci, Clément. Merci à tous et à une prochaine fois.
Mesdames et messieurs les députés.
L'Union européenne est d'abord un espace où les peuples ont décidé de vivre en paix.
Autour de la table, les dirigeants des 27 réunis aujourd'hui en sommet. Plusieurs dossiers sont sur la table au moment où je vous parle.
Nous avons collectivement à nous donner les moyens de faire de notre Europe une puissance d'équilibre.
Tout ce qu'il a dit, il l'avait déjà dit par le passé. Il n'y a rien de fondamentalement, je dirais, nouveau.
Et ma jeunesse fut celle de l'évidence européenne.
Cette prison qui est devenue l'Union européenne.
Et je compte sur le travail étroit, harmonieux, avec le Parlement européen.
Plus j'y parle, moins il en dit. J'y parle, moins il en dit. J'y parle, moins il en dit.